Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes en partenariat avec BFM. Vous le savez, Quid Juris, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Elsa Franz. Vous écoutez et vous regardez le 113e épisode de Quid Juris. Cette semaine, l'actualité qui a retenu notre attention, c'est l'éviction du PDG depuis 26 ans des éditions Grasset, le très respecté Olivier Nora, éviction par Vincent Bolloré, le propriétaire depuis 2023 de sa maison mère, le groupe Hachette Livre. Une affaire dont on a beaucoup parlé, qui a provoqué beaucoup de commentaires politiques, mais aussi une véritable fronde de la part des écrivains et des intellectuels, et même une vague de départ annoncée de près de 250 auteurs de chez Grasset. Alors, cette affaire, elle suscite aussi beaucoup de questions juridiques, notamment autour de la propriété intellectuelle et de la liberté des auteurs. À quelles conditions un auteur peut-il quitter sa maison d'édition? Quid des livres qu'il a déjà publiés chez cet éditeur et des livres qu'il s'est engagé à écrire? Est-ce qu'une class action, par exemple, de ces auteurs pourrait être envisageable? Certains réclament même la création d'une clause de conscience pour les auteurs, un peu à la manière de ce qui existe déjà pour les journalistes, et puis pourquoi pas imaginer aussi, pourquoi pas dans l'édition, une nouvelle loi anti-concentration. Pour nous aider à comprendre et à y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir dans Quid Juris, comme chaque semaine, le meilleur interlocuteur possible. Bonjour Jean-Michel Bruguière.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes, directeur du Centre universitaire d'enseignement et de recherche en propriété intellectuelle, le QRPI. Vous êtes aussi responsable du master propriété intellectuelle et droit des technologies nouvelles et par ailleurs avocat. Alors on va reprendre cette affaire parce que je le disais, elle pose énormément de questions juridiques. D'abord, dès l'annonce du limogeage d'Olivier Nora, le PDG de Grasset, de nombreux auteurs ont annoncé en solidarité qu'ils quittaient leur maison d'édition. Alors la première question, elle est toute simple. À quelles conditions un auteur, des auteurs, peuvent dire « je quitte mon éditeur » ?
Alors, on quitte son éditeur de différentes manières. On peut le quitter de manière, on va dire, naturelle, et puis de manière un peu plus pathologique. De manière naturelle, c'est en fait le contrat qui va s'éteindre à la survenance du terme qui a été prévu, ce qui pose d'ailleurs une question de la durée du contrat d'édition. Et là, tout dépend de quoi on parle, en fait. Si on parle du papier, livre papier ou du livre numérique, le livre papier, il y a un usage. L'usage, c'est que l'auteur, en général, cède ses droits d'auteur toute la durée de la propriété littéraire artistique, c'est-à-dire en fait les 70 ans post-mortem. Et aujourd'hui, certains disent c'est trop long, c'est un engagement quasiment perpétuel. Bon, je ne le pense pas. Mais
alors, pour bien comprendre, oui. J'écris un livre chez Grasset ou dans n'importe quelle maison d'édition. Pendant 70 ans, les droits de ce livre appartiennent à Grasset.
70 ans, même après ma mort. C'était effectivement, c'est la cession de toute la durée de toute ma vie, plus les 70 ans après ma mort.
D'accord.
Effectivement, les droits ont été cédés. Et donc, certains disent, c'est trop long, bon, bien que ce soit d'usage dans le domaine de la littérature, on va dire papier. Le numérique, c'est une question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on va caler la durée du numérique sur le papier? Là, pour le coup, je ne le pense pas. Je pense qu'effectivement, les investissements ne sont pas de même nature. Et l'idée, ce serait peut-être de faire un contrat plus court, 5 ans par exemple, et puis avec une clause de rendez-vous pour essayer de voir si on prolonge ou pas.
Donc ça, c'est la rupture naturelle. Maintenant, reprends votre terme, vous avez dit il y a la rupture pathologique.
Voilà.
En gros, il y a un problème entre l'auteur et l'éditeur, et là, on est exactement dans ce cas-là.
C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Alors, il y a une autre question qu'on envisagera certainement plus tard, qui est la question de la cession du contrat, l'hypothèse où on va céder à un autre éditeur. Bon, c'est le contrat se poursuit, mais avec un autre éditeur. L'autre versant, c'est effectivement la question, on veut dire, pathologique, où il y a une mauvaise exploitation ou une absence d'exploitation. Et là, on a tout un tas de dispositions dans le code de la propriété intellectuelle qui sont là pour donner la possibilité aux auteurs de résilier les contrats lorsqu'ils vont considérer qu'il y a une mauvaise exploitation. Alors, on a tout un tas de dispositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, il y a une disposition dans le code qui considère que pour la partie numérique, après 4 ans après le début du contrat, si pendant 2 ans, donc ça va faire 6 ans, il n'y a pas eu d'exploitation, eh bien, à ce moment-là, tout naturellement, l'auteur peut récupérer ses droits. C'est un peu ce que les Américains appellent le use it, or lose it, en fait. Soit vous l'utilisez, bon, mais très bien.
Soit vous le perdez.
Soit vous le perdez, exactement. Donc là, on est vraiment dans une logique économique, mais comme vous le voyez, en fait, on est quand même assez éloigné de la discussion morale, on va dire.
Oui, parce que là, ce que je comprends dans ce que vous décrivez, c'est lorsque l'éditeur est défaillant dans l'exécution du contrat qu'il a lui-même signé avec son auteur.
Exactement.
Sauf que là, on n'est pas dans ce cas-là. Les auteurs disent par solidarité, vous avez viré le PDG, bah moi, par solidarité, je décide de quitter... En fait, je vous soupçonne de l'avoir fait pour des raisons politiques, idéologiques, ça ne me convient pas, je quitte la maison d'édition. Or là, on est dans quel cadre juridique? Il y a un cadre d'ailleurs prévu?
Aucun. Voilà. On n'est dans aucun cadre. Le seul élément dont on peut rapprocher, c'est cet article S132-16 du Code de la propriété intellectuelle, qui est une hypothèse où l'éditeur va céder un contrat d'édition à un autre éditeur. Encore que, si je rentre un peu dans le détail, c'est important si on veut comprendre la suite du raisonnement. Le Code prévoit 2 hypothèses. Première hypothèse, vous cédez un contrat isolé. Et là, dans ce cas-là, on considère qu'il faut nécessairement l'accord de l'auteur pour pouvoir céder ce contrat. Par contre, lorsqu'on cède un catalogue, eh bien, on considère que par principe, on n'a pas demandé l'autorisation de tous les auteurs, sauf, et là c'est important, le texte dit si on met à mal les intérêts moraux et matériels, et petit à petit, on rentre dans la discussion de ce qu'on a appelé la clause.
Là, on va rentrer en plein dans le cœur du sujet, c'est la différence entre les droits moraux et les intérêts moraux des auteurs. Avant d'en arriver là, moi j'avais lu, cru comprendre, c'est vieux, hein, c'est mes études de droit, que le régime juridique du contrat d'édition se voulait protecteur des droits et des intérêts des auteurs, tout en préservant une forme d'équilibre avec les droits de l'éditeur. Or, quand on y regarde de près, un éditeur, il a le droit de se séparer quasiment à tout moment d'un auteur, notamment si le contenu d'un livre promis ne lui plaît pas, ou si les prises de position d'un auteur sur la place publique ne lui conviennent pas. En revanche, si je comprends bien, les auteurs, ils n'ont pas ce droit-là. Ils peuvent pas s'en aller de chez Grasset ou d'une autre maison d'édition quand bon leur semble, même pour des raisons politiques ou idéologiques.
Mmh.
Donc finalement, ce contrat, il est pas très équilibré.
Alors oui, on peut considérer effectivement que, bon, d'abord l'éditeur peut refuser d'éditer le livre, ça c'est certain. Est-ce qu'il peut refuser de le publier c'est pas évident effectivement si c'est engagé. Je précise, et c'est là aussi un point important, que des auteurs peuvent, et certains on s'en est aperçu avec cette crise de l'affaire Nora, certains auteurs peuvent insérer dans les contrats d'édition, je crois que c'est le cas de M. Bernard-Henri Lévy et de Virginie Despentes, qui ont dans leur contrat d'édition une clause qui prévoit qu'en cas de changement de direction ou en cas de changement de directeur de collection, enfin, il y aurait la possibilité effectivement de pouvoir partir librement. Alors, c'est une exception. Hein.
Je vais prendre un exemple concret, oui. Parce qu'on parle beaucoup de Grasset, mais en 2024, la maison Fayard, qui est une autre propriété du groupe Bolloré, était devenue, vous en souvenez, l'éditeur refuge un peu des auteurs de droite extrême, des auteurs conservateurs. Il y avait Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour, Jordan Bardella, Philippe de Villiers, l'ancien chef d'état-major Pierre de Villiers. Donc, si je vous entends bien, un écrivain de gauche dans cette maison d'édition n'a absolument pas la liberté de dire « moi, j'ai plus ma place dans cette maison d'édition, je m'en vais ». Il n'en a pas juridiquement la possibilité.
Non, en l'état du droit, il pourra effectivement difficilement faire cela. Alors, il a sa liberté d'expression, on va dire, et quitter effectivement le navire, mais ça va avoir des répercussions juridiques, comme ça a eu des répercussions juridiques pour tous les auteurs qui ont suivi M. Nora.
Alors, des répercussions juridiques et sans doute financières, on va y venir dans un instant.
Financières, bien évidemment.
Mais c'est à cause des exemples que l'on prend ensemble, Jean-Michel Bruguère, que certains se sont dit, on pourrait peut-être inventer ce qui existe déjà pour les journalistes, c'est-à-dire la clause de conscience. Il y a 300 écrivains qui ont demandé qu'effectivement, on applique la clause de conscience qui vaut dans les rédactions pour les journalistes aux auteurs. Est-ce que c'est envisageable ?
Alors, je sais que le parallèle a été souvent fait avec les clauses de conscience des journalistes, mais aussi des médecins. Je pense toutefois que le parallèle n'est pas si évident que cela.
Parce qu'en fait, un journaliste et un auteur, ce n'est pas la même chose.
Exactement, exactement. Du point de vue juridique, il y a, à mon avis, trois différences. Première différence sur le statut, il y en a un qui est salarié la plupart du temps, l'autre qui est totalement indépendant.
Sauf que sur ce critère-là, on va évoquer les deux autres, mais on pourrait dire qu'il y a une forme de dépendance financière de l'auteur vis-à-vis de son éditeur.
Oui.
Donc, même s'il n'est pas salarié, il est quand même dépendant de l'éditeur.
C'est vrai, il est dépendant de son éditeur, mais pas tout à fait exactement dans une situation d'un salarié, me semble-t-il. Le deuxième point qui, à mon avis, fait que le parallèle n'est pas évident, c'est les conditions de production des œuvres. Dans le journal, un éditeur de presse, on est souvent dans ce qu'on appelait une œuvre collective. Aujourd'hui, avec la loi Hadopi, ils sont salariés, donc c'est une œuvre collective. Alors que dans le cadre, lorsque vous êtes auteur et que vous écrivez un bouquin, vous êtes...
C'est une production individuelle.
Individuelle, exactement. Je pense qu'effectivement, c'est effectivement pas tout à fait la même chose. Donc, je pense en fait que le parallèle n'est pas si évident que ça à faire. Je trouve que c'est un peu trompeur comme image, en fait.
Et puis certains disent, par ailleurs, quand un écrivain passe un contrat avec une maison d'édition, contrairement aux journalistes dans une rédaction, il n'y a pas de charte éditoriale préalable qui définit les droits et devoirs de chacun dans le cadre de ce travail.
Exactement, c'était effectivement le troisième point que j'ai oublié, c'est effectivement le journal qui va concourir, en fait, quelque chose d'intérêt général. C'est plus difficile à dire pour un éditeur, bon, bien qu'il existe des éditeurs qui ont une ligne éditoriale qu'on arrive à peu près à cerner, mais c'est pas la même chose que pour un journal.
Mais pardon, la question va peut-être vous paraître naïve, mais quand un auteur et un éditeur passent contrat ensemble, et on le voit bien, souvent, ils restent très longtemps dans la même maison d'édition, il y a nécessairement un lien de confiance qui se noue entre l'auteur, entre l'écrivain, que ce soit un écrivain de fiction ou quelqu'un qui écrive des ouvrages de non-fiction, peu importe. Mais il y a un lien de confiance entre l'auteur et l'éditeur. Et donc ce lien, il devrait, on se le dit comme ça, mais pourrait se dénouer à tout moment à la demande de l'un ou à la demande de l'autre. Pourquoi l'auteur n'a pas ce droit moral-là ?
Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement un point très important, très intéressant. Effectivement, il ne faut pas voir le rapport, enfin, ne pas toujours voir le rapport de l'auteur et l'éditeur comme une sorte de lieu de combat. Je pense qu'effectivement, on peut voir le contrat d'édition comme une sorte de contrat d'intérêt commun, avec une confiance réciproque qui se construit. Sans tomber dans le monde des bisounours, on a quand même effectivement cette conception du contrat d'édition qui fait qu'on doit pouvoir, en bonne intelligence, se séparer à un moment donné. Ça n'a pas été le cas, manifestement, dans l'affaire Nora.
Alors, il n'y a pas de clause de conscience,
non.
Mais il n'y a pas non plus, comme chez les journalistes, de clause de cession. La clause de cession, pour un journaliste, c'est quand l'actionnaire de son journal change, il a une modalité qui s'appelle, il fait jouer sa clause de cession, il dit la ligne éditoriale de ce nouvel actionnaire, de ce nouveau propriétaire ne me convient pas, pour des raisons morales, je quitte cette entreprise avec les mêmes droits que celui d'un salarié qui serait licencié. Pas de clause de conscience pour les auteurs, mais pas de clause de cession non plus.
Non, pas de clause de cession, sauf à retomber toujours dans mon article L132-16 et à évoquer l'amendement de Madame Robert, qui je crois a été rejeté la semaine dernière, qui consistait précisément à introduire cette clause de cession. Peut-être qu'on en reparlera, mais c'était l'idée effectivement qu'à partir du moment où il y a un nouveau contrôle qui se traduit par un changement de direction, bien peut-être à ce moment-là, on pourrait donner la possibilité, reste à savoir dans quelles conditions à l'auteur de partir.
Alors, vous avez utilisé, il y a quelques instants, une notion qui est très importante et qui mérite décryptage. Vous avez parlé des intérêts moraux de l'auteur. Les droits moraux, on voit ce que c'est. Il faut que l'auteur exploite l'œuvre, respecte le contenu de l'œuvre, respecte l'auteur. C'est quoi les intérêts moraux d'un auteur ?
Alors ça, c'est une question très délicate, parce qu'effectivement, quand on lit cet article 132-16, quand on parle d'intérêts matériels et moraux, on pense assez rapidement au droit moral de l'auteur. Le droit moral de l'auteur, bon, il y a plusieurs prérogatives. Celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le droit au respect de l'œuvre. Et l'auteur a effectivement le droit de faire valoir son droit droit au respect de l'œuvre, avec une question absolument essentielle que pose justement cette affaire Nora, c'est est-ce que moi, Jean-Michel Bruguière, chez Grasset, je pourrais dire, eh bien, la présence de Jordan Bardella, de Nicolas Sarkozy et de quel autre auteur ou président me gêne et porte atteinte à mon respect de l'œuvre. Voilà, donc ça, c'est une question absolument essentielle. Je ne le pense pas, Alors, peut-être qu'il y a des menaces, des intérêts moraux, on va y revenir, mais sur le terrain du droit au respect de l'œuvre, je ne vois pas en quoi ça menace finalement l'exploitation de mon œuvre.
Peut-être plus que l'éviction du PDG, en l'occurrence.
Pas plus que l'éviction du PDG, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc là, on voit bien qu'en fait, le droit moral... Alors, c'est un peu plus subtil que ça parce que... Alors, par exemple, j'en reviens encore une fois à cet amendement, parce qu'il était dit qu'on mettait en avant l'atteinte à la réputation. Atteinte à la réputation. Alors là, c'est autre chose, parce que, alors, sans être trop technique, dans le droit d'auteur, on a une convention internationale qui s'appelle la Convention de Berne. Et dans cette Convention de Berne, on lit très souvent le droit au respect de l'œuvre et l'atteinte à la réputation. Donc, c'était un peu ça qui était dit en disant, finalement, je n'ai pas envie d'être associé à tel ou tel auteur. C'est pas vraiment mon œuvre, mais c'est ma réputation. Mais est-ce que c'est vraiment la réponse à trouver dans le droit d'auteur? Je suis pas évident. La diffamation, c'est plutôt l'atteinte à l'honneur et la réputation, c'est plutôt de la diffamation, ça touche la personne, ça touche pas vraiment l'œuvre en quelque sorte.
Alors on a vu fleurir depuis longtemps déjà une nouvelle forme de contrat avec les maisons d'édition. Mmh. Il y a le contrat classique où un auteur signe avec une maison d'édition, un auteur va signer avec Grasset par exemple, et puis parfois il y a des contrats dits intuitu personae où l'auteur va signer avec le PDG directement de cette maison d'édition, ou même pourquoi pas avec un directeur de collection à l'intérieur de cette maison d'édition, en disant, moi je signe avec une personne, pas un éditeur, il y a la marque Grasset sur mes livres, mais moi j'ai signé mon contrat moral, mon lien de confiance avec une personne, et donc quand cette personne s'en va, je me sens délié. Est-ce que ça pourrait être une porte? Alors certains le font, assez peu en vérité, mais quelques-uns, souvent d'ailleurs les plus connus et ceux qui vendent le plus de livres, mais est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de ces contrats intuitu personae pour protéger un peu plus l'auteur qu'il ne l'est actuellement?
Tout à fait, moi je pense que c'est une solution qui est plus pertinente que d'invoquer le droit au respect de l'œuvre. Alors, soit effectivement avec les auteurs, soit avec les directeurs de collection, parce que on a beaucoup parlé des auteurs, la clause de conscience avec les auteurs, mais une des questions qui se pose, ce serait de savoir est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à agir au niveau des directeurs de collection plutôt que les auteurs, et même certains ont suggéré, alors ça va peut-être, à mon avis, un peu loin, mais c'est une autre piste, d'adopter pour des maisons d'édition un statut particulier. Ce statut, je l'ai oublié, c'était effectivement maison de mission, ou statut, société de mission, qui ferait que dans les sociétés, on mettrait des statuts particuliers avec des missions particulières, et les contrats se référeraient au statut de la société, qui permettrait effectivement de partir plus librement. Alors, ça pose évidemment un grand problème, on ne va pas obliger les maisons d'édition, au nom de la liberté contractuelle, d'adopter ce statut de société.
Mais là, par exemple, on pourrait imaginer, dans le cas présent, que les auteurs disent « Écoutez, moi, je suis venu chez Grasset parce qu'il y avait Olivier Nora. Dès lors qu'Olivier Nora n'est plus là, eh bien, je ne me sens plus lié à cette maison d'édition. » Est-ce que ça, c'est envisageable comme argument?
Oui, je pense que c'est effectivement un argument tout à fait pertinent, en fait. C'est de dire que c'est une condition essentielle de mon contrat et qu'il faut effectivement respecter. Et si cette condition disparaît, ben, le contrat devient caduque, en quelque sorte. Oui, c'est tout à fait envisageable.
Alors, il y a ensuite des conséquences à ce départ. Oui. Parce que ces écrivains qui ont dit « Moi, par solidarité, je m'en vais », il y a deux questions qui se posent. D'abord, il y a la question des livres qu'ils ont déjà écrits. Donc, vous avez en partie répondu, ces livres restent la propriété de l'éditeur, Grasset en l'occurrence. Donc là, ils ne peuvent pas récupérer les livres qu'ils ont édités dans cette maison d'édition. On est d'accord?
Oui, on est bien d'accord. C'est effectivement, sur les conséquences pratiques, il faut bien distinguer, je dirais, la situation passée et la situation à venir. Situation passée, ben, ces contrats font partie d'un catalogue qui appartient effectivement à à l'éditeur. Alors, il peut y avoir des transactions pour les récupérer éventuellement, mais c'est la propriété des éditeurs.
Ça, c'est les livres anciens.
Oui.
Maintenant, la plupart du temps, ces auteurs, ils se sont engagés à écrire des nouveaux livres. S'ils quittent la maison d'édition, il advient quoi de ces livres ? Ils sont obligés de les écrire et de les rendre à cet éditeur. Comment font-ils pour récupérer le contrat ou le livre en devenir, si j'ose dire ?
Alors, ça, c'est là qu'on touche les choses les plus délicates. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est sur des contrats en cours avec ce qu'on appelle des pactes de préférence, où on s'est engagé à livrer un certain nombre d'ouvrages, là, effectivement, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on rachète, en fait, cette préférence. Est-ce qu'on va la négocier avec l'éditeur qui voudrait reprendre, en quelque sorte, l'auteur, comme ça se fait dans, je sais pas, dans le football ? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de rachat de droit, c'est là la difficulté en fait. À vrai dire, en fait, là où ça pose pas de difficulté, c'est je me suis engagé à faire un livre, il est pas fabriqué, il est pas publié. Bon, là c'est assez simple.
On s'arrête là.
Mais souvent, effectivement, on est dans un processus avec des avaloirs et ça devient effectivement compliqué.
Alors vous avez cité le mot avaloir. Avaloir, pour ceux qui ne connaissent pas une maison d'édition, c'est l'argent que verse l'éditeur à l'auteur avant même que le livre soit écrit. C'est une sorte d'avance sur les droits d'auteur qu'il touchera ultérieurement. Là, s'il a touché cet avaloir, est-ce qu'il doit nécessairement les rembourser s'il ne rend pas son livre ?
Alors, c'est une question là aussi très délicate. Normalement, l'avaloir, je crois qu'on le considère comme ce qu'on appelle un dédit. C'est-à-dire, effectivement, l'auteur, normalement, quel que soit le sort du livre, conserve en quelque sorte ses avaloirs.
Vous voulez dire que si l'éditeur décide de ne pas publier le livre, il n'a pas le droit de lui réclamer la restitution de l'avaloir.
Exactement. Mais là, on est dans une situation un peu différente.
C'est le contraire.
C'est le contraire, exactement. Donc là, je pense qu'il faudrait effectivement certainement récupérer ses avaloirs. Alors, peut-être par le jeu de compensation avec les redevances. Effectivement, je vous ai fait une avance. Vous allez avoir une vente de droits d'auteur. Enfin, vous allez percevoir des droits d'auteur. Je les retire finalement de ce que je vous ai avancé. Bon, là, ça sera de la transaction, mais il n'y a aucune raison que l'auteur conserve en quelque sorte ses avaloirs.
Alors, c'est parce que vous êtes un spécialiste de ces questions-là que vous avez été auditionné par la commission culturelle du Sénat.
Oui.
Le Sénat qui, voici quelques jours, a rejeté cet amendement visant à créer une clause de conscience, voire même une clause de cession pour les auteurs. Catherine Pégard, qui est la nouvelle ministre de la Culture, disait lors des questions au gouvernement au Sénat, c'était il y a quelques semaines, au fond, il faudrait s'interroger sur la rupture du lien entre l'auteur et l'éditeur quand la politique éditoriale, je la cite, hein, est brutalement modifiée. Ce serait quoi, en l'occurrence, la bonne loi pour protéger un peu mieux les auteurs et permettre, je ne sais pas si la loi serait rétroactive, mais de permettre à ces auteurs qui veulent quitter Grasset de s'en aller, tout simplement.
Alors, la bonne loi. Alors déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut intervenir est-ce que le
législateur... Sur le plan législatif.
Je suis assez réservé, parce qu'effectivement, on sait très bien que légiférer sous le coup de l'émotion, c'est jamais très bon, mais admettons que ça soit effectivement une bonne chose. Il faut quand même rappeler que dans les contrats d'édition, les principales réformes de ces dernières années se sont faites par voie d'accord professionnel entre les éditeurs et les auteurs, les représentants de chacune des professions, et ça a débouché sur des avancées, à mon avis, significatives. Donc, admettons que ça soit pertinent d'intervenir. Qu'est-ce qu'on devrait mettre dans cette loi ? Alors, en l'état, d'après ce que j'ai compris, on nous dit, un, que l'auteur est fondé à obtenir la résiliation, ce que nous dit ce texte. Bon, sauf que le législateur ne se préoccupe pas véritablement des conséquences pratiques qu'on a discutées. Et il vise deux cas de résiliation. Alors, un, le changement de contrôle. Il renvoie à la définition du changement de contrôle du Code du commerce. Et un changement d'orientation de l'entreprise. Alors, ce qui pose d'ailleurs une question, en fait, parce que je pense que il faudrait lier les deux. C'est-à-dire, il faudrait que le changement de contrôle se traduise par un changement d'orientation.
De ligne éditoriale.
Voilà, éditoriale. Le changement de contrôle en lui-même, je ne vois pas très bien en quoi c'est problématique. Et ça pose une question. Effectivement, ça pose une question qui est la question de savoir si, lorsque vous et moi achetons Le Figaro ou Libération, eh bien, on peut
on
penser...
On sait qu'on achète un journal de droite ou un journal de gauche.
Voilà, exactement.
Quand on va acheter un livre chez Grasset, on ne sait pas quelle est la couleur politique de la maison d'édition.
Pas...
On sait parfois la couleur politique de l'auteur,
oui.
Mais pas de la maison d'édition.
Oui, voilà, exactement. C'est effectivement, à mon avis, un point qui mériterait d'être... Bon, bien qu'il y ait des éditeurs qui ont une ligne éditoriale, mais particulière. Je pense à Paul, par exemple. On arrive à, effectivement à savoir exactement...
J'ai cité l'exemple de Fayard, par exemple.
Ou l'exemple de Fayard, exactement. Ensuite, le texte nous dit qu'il faudrait que les changements doivent porter atteinte à l'honneur et à la réputation. On a discuté ce point. Et alors, ce que dit pas, par contre, le texte, il ne dit pas, effectivement, si le dispositif qu'ils ont prévu est d'ordre public ou pas. Est-ce qu'on peut l'aménager contractuellement? Est-ce qu'on peut écarter cette clause de conscience, si on l'appelle comme ça, ou est-ce qu'elle serait effectivement impérative?
Alors, évidemment, ce texte va continuer sa navette parlementaire et on verra si ça débouche sur une loi ou pas. Mais vous l'avez compris, cette affaire Grasset, elle pose encore de très nombreuses questions juridiques. C'est la deuxième partie de Quid Juris.
Quid Juris, affaire Grasset. Laurent Neumann reçoit le professeur Jean-Michel Bruguière.
Alors, Jean-Michel Bruguière, on a vu que certains auteurs réclamaient la création d'une clause de conscience. On a vu ensemble à quel point c'était juridiquement fragile. D'autres, comme la romancière Colombe Schneck, autrice elle-même chez Grasset, proposent ce qu'on appelle une class action. Elle dit, on est 120 écrivains, on a donc une force collective et avec ça, peut-être qu'on peut récupérer nos droits d'auteur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce qu'il y a un moyen de, à plusieurs, d'obtenir ce qu'individuellement on ne peut pas obtenir?
Alors, je pense que les auteurs qui ont évoqué cette class action voulaient certainement dire que les auteurs allaient se regrouper, que l'union faisait la force, qui vont choisir peut-être le même avocat. Je doute néanmoins de la pertinence du recours à la class action, parce qu'en fait, d'abord, en droit français, la class action, cette procédure est très encadrée. Elle est uniquement concentrée à certains domaines, le droit des données personnelles, le droit de la consommation. Elle n'est pas autorisée pour permettre à des auteurs de demander collectivement la résiliation de leur contrat d'édition. Il suffit de penser que les intérêts des auteurs sont un peu divergents. Il y a un auteur qui a publié 10 livres chez Grasset, un qui a reçu un important avaloir, un qui va écrire son premier livre. Enfin, il y a tout un tas de situations différentes et ça me paraît difficile de les regrouper tous dans le même ensemble.
Alors, en revanche, certains disent, très bien, la clause de conscience, on oublie. La class action, je vous entends, on oublie. Par contre, il faudrait une nouvelle loi anti-concentration dans le domaine de l'édition, parce qu'au fond, lorsque vous êtes auteur chez Grasset et que vous dites « je reprends mes billes, je m'en vais », vous avez 50 maisons d'édition qui appartiennent à Hachette Libre, où demain, vous ne pourrez sans doute pas aller publier. Donc, est-ce qu'il y faudrait, pour éviter ce genre de problème, une loi anti-concentration? Est-ce que ce serait la bonne réponse?
Alors là, je suis un peu plus mal à l'aise pour vous répondre. Je ne suis pas un spécialiste du droit de la concurrence, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut se poser la question de savoir si elles sont liées ou pas, ces questions de la concentration et des clauses de conscience. J'aurais tendance à dire que la concentration, c'était un peu un sujet de politique culturelle de concurrence. La clause de conscience est plutôt un sujet de droit des contrats. J'aurais tendance à dire que même si le marché est très diversifié, un auteur peut très bien vouloir récupérer ses droits et faire valoir sa clause de conscience. Donc, je ne vois pas forcément le lien entre les deux. Je comprends effectivement que peut-être que ça accentue le phénomène, mais c'est à mon avis à deux niveaux qu'il faut peut-être raisonner.
Alors, d'autres disent, mais au fond, ce que fait le Bolloré et Hachette Livre avec Grasset, ou hier avec Fayard, au fond, c'est une stratégie délibérée, et certains remontent très loin en disant, au fond, il a fait la même chose à Canal+, en virant, pardonnez-moi l'expression, les guignols de l'info, il a fait la même chose avec iTélé en le transformant en CNews, il a fait la même chose avec Europe 1 en transformant la radio en une excroissance de CNews. Mais au fond, un actionnaire, quand il a acquis une entreprise, il en fait ce qu'il veut.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est la conclusion à laquelle il faut parvenir. Ça déplaît à certains.
Il n'y a pas de mécanisme juridique qui empêche un actionnaire de faire ce qu'il veut éditorialement des médias qu'il a achetés.
Non, après, il faudra voir effectivement dans quelles conditions il met en œuvre les nouvelles acquisitions, la manière dont il va se débarrasser de certaines entreprises dont il ne souhaite plus. Il y a des pratiques restrictives de concurrence, peut-être des ententes, peut-être un abus de position dominante. Mais sur le principe, ça c'est les modalités, sur le principe, c'est la liberté.
Alors, vous avez prononcé le mot « abus de position dominante ». Est-ce qu'au fond, quand on est propriétaire de 50 maisons d'édition et qu'on décide soit de virer un patron d'une maison d'édition ou de mettre dehors un éditeur. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'abus de position dominante ?
Alors, il y a certainement une position dominante, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, nombre de sociétés, d'entreprises concernées, il faut maintenant caractériser un abus. Alors, ça peut se faire peut-être un abus parce que ça s'est fait dans des conditions vexatoires, peut-être effectivement abusives en quelque sorte, mais voilà, c'est là encore une fois, il va falloir arriver à caractériser l'abus.
Encore une dernière question, j'imagine que ça ne vous a pas échappé, cette fameuse tribune anti-Bolloré qui s'intitulait « Zappé Bolloré », signée par plusieurs centaines de professionnels du cinéma, beaucoup de techniciens, mais aussi des célébrités, Ken Loach, Juliette Binoche, Adèle Haenel, Javier Bardem. Et aussitôt, quand le patron de Canal+ a vu paraître cette tribune, il a dit « puisque c'est comme ça, Canal+ ne travaillera plus avec aucun des signataires de cette tribune ». La ministre de la Culture a dit que cette réponse était totalement disproportionnée, mais j'ai envie de vous poser la même question. Canal+ a le droit de travailler avec qui elle veut.
Bien sûr.
C'est la liberté des contrats.
C'est la liberté.
On peut le déplorer, d'ailleurs.
Oui,
mais c'est comme ça.
On peut effectivement le déplorer. Alors, sauf évidemment à tomber dans des situations de discrimination qui feraient que je contracte avec telle ou telle personne ou pas l'autre.
Mais voulez dire que dès lors que ces 3500 signataires ont mis leur nom, s'ils ne peuvent plus travailler, il pourrait y avoir de la part de Canal+ une liste noire, donc une forme de discrimination. Et ça, c'est puni par la loi ?
Ah bah oui, je pense qu'effectivement, là, si on arrive à prouver qu'on est blacklisté à partir de cette pétition et que ça se traduit par des refus de contracter, là, pour autant, effectivement, on n'est plus dans la liberté contractuelle.
Le fameux article 225-1 du Code pénal, forme de discrimination sur le fondement des opinions politiques, des activités syndicales.
Par exemple.
Et là, c'est très sévèrement puni. Hein. C'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, je crois. Mais oui. On pourrait entrer dans ce cas-là ?
On pourrait entrer dans ce cas-là. On pourrait rencontrer aussi dans des situations qui tiennent au contrat, sur des abus dans le droit des contrats ou dans le droit de la concurrence.
Est-ce qu'on pourrait, c'est ma dernière question, aller sur le terrain aussi de la liberté d'expression ? Au fond, il se trouve que c'est le milieu du cinéma, mais des acteurs, des techniciens, des réalisateurs, au nom de la liberté d'expression, ont parfaitement le droit de signer une tribune, quoi qu'elles disent d'ailleurs.
Et
il y aurait beaucoup à dire sur le contenu de la tribune.
Bien évidemment.
Mais c'est leur liberté d'expression.
Ah, totalement. On est entièrement d'accord. Effectivement, liberté d'expression totale. Effectivement, ils ont le droit de s'exprimer sur les sujets qui les intéressent. Bon, sauf qu'effectivement, ici, ça a provoqué le courroux de ce monsieur.
En tout cas, on suivra avec vous évidemment le parcours législatif de cette proposition de loi. On verra d'ailleurs si elle débouche sur quelque chose qui modifie le droit des contrats entre auteurs et éditeurs. Merci Jean-Michel Brugger.
Merci à vous.
Quid Juris, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ce podcast, évidemment, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, évidemment sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur le site du Club des Juristes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le 114e épisode de Quid Juris. Bonne semaine à tous.